Décryptage, Marie Cazadebé.
En Turquie, le président Erdogan accélère le tempo. Il a lancé dimanche dernier sa campagne pour la présidentielle et législative du 24 juin. Des élections anticipées qui n'auraient dû avoir lieu qu'en fin 2019. La Turquie ne peut attendre, selon le chef de l'État. La situation en Syrie notamment justifie le passage à un nouveau système exécutif.
Notre parti a remporté jusqu'à aujourd'hui les 12 derniers scrutins. C'était très important pour nous. Mais quand ces élections seront terminées, notre système présidentiel entrera pleinement en fonction. Et il va nous permettre de poursuivre nos idéaux de grandeur.
En cas de victoire, Recep Tayyip Erdogan jouira de nouveaux pouvoirs obtenus lors du référendum d'avril. Il deviendra un hyper-président. Mais pourquoi faire? L'opposition est-elle assez solide pour répondre à l'accélération du calendrier électoral? Le pari d'Erdogan est-il risqué? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Guillaume Perrier.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes journaliste, vous avez été de 2004 à 2014 le correspondant du quotidien français Le Monde à Istanbul. Et en janvier dernier, vous avez signé aux éditions Actes Sud dans la tête de Recep Tayyip Erdogan. On a besoin de savoir ce qu'il y a dans la tête de Tayyip Erdogan. Ces élections présidentielles et législatives vont avoir lieu donc avec près d'un an et demi d'avance. Pourquoi le président est-il si pressé d'emmener son pays aux urnes ?
Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, ça faisait déjà quand même de longs mois qu'il préparait cette anticipation des élections. En fait, ce qui l'a déclenché, c'est son alliance officialisée avec le parti d'extrême droite MHP, qui lui permet potentiellement d'avoir 50% des voix plus facilement. Et puis, il a été pris aussi dans la nécessité d'anticiper ces élections par deux facteurs qu'il a lui-même d'ailleurs clarifié. C'est effectivement la guerre en Syrie. Les récentes opérations militaires, notamment à Afrin et puis dans le nord de la Syrie contre les Kurdes, ont, si vous voulez, soulevé une forme très très très puissante de nationalisme en Turquie, qui permettent à Erdogan de renforcer cette alliance qu'il a bâtie avec l'extrême droite et donc de s'allier une grande partie de l'électorat turc qui, pour sa grande majorité, soutient ces opérations militaires. Et puis le deuxième facteur, c'est évidemment l'économie, l'économie turque qui va plutôt mal avec la monnaie qui s'effondre, avec l'endettement qui progresse de manière galopante, et les prévisions économiques pour la fin d'année s'annoncent très mauvaises, et donc Erdogan avait tout intérêt à anticiper ces élections aussi pour ça.
On parle d'une inflation à deux chiffres, 10% au mois de mars. De quoi pâtit l'économie turque et comment ça se fait que le président Erdogan finalement ne l'ait pas appréhendé?
Bah écoutez, je pense pas qu'on puisse dire qu'il l'ait pas appréhendé. C'est l'économie turque pâtit évidemment de la situation politique dans le pays. Les investisseurs étrangers se sont largement retirés de la Turquie parce que c'est devenu un pays extrêmement instable aujourd'hui. Les indicateurs économiques ne sont pas bons. Certes, il y a une croissance assez forte, mais avec une inflation deux fois plus forte qui est revenue à ses niveaux d'avant l'ouverture des négociations avec l'Union européenne, donc au début des années 2000, ce qui est très inquiétant pour les Turcs, parce que les Turcs ont connu, si vous voulez, des périodes de crise avec des inflations à deux ou à trois chiffres parfois qui les ont placés dans des situations extrêmement difficiles. On était sorti de ça depuis quelques années et aujourd'hui ce spectre de l'inflation galopante revient. Donc l'économie est extrêmement fragile, les investisseurs se retirent et pour compenser ça, Erdogan fait tourner la machine à billets, fait tourner le secteur de la construction qui continue à tirer l'économie turque, mais c'est une croissance assez fragile.
Ça veut dire qu'attendre novembre 2019, c'était prendre le risque que la situation économique soit encore plus mauvaise, soit encore moins favorable.
C'est ça, et comme on le sait, Erdogan a toujours bâti aussi ses succès électoraux sur l'économie, justement. C'est les progrès de l'économie, la hausse du pouvoir d'achat, du PIB, qui ont valu à Erdogan ses meilleures victoires électorales. Et aujourd'hui, il est potentiellement en position d'être menacé par cette instabilité économique. Donc, de sa principale force, l'économie est devenue un talon d'Achille, finalement.
Je le disais aussi en introduction, anticiper ces élections, c'est aussi anticiper l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle, donc celle qui a été soumise à un référendum il y a un an. Elle instaure un régime hyper présidentiel. Est-ce qu'on peut en rappeler les grandes lignes? Est-ce que là aussi c'est un argument qu'il faut avoir en tête pour comprendre l'accélération et ces élections anticipées?
Alors oui, sans doute. Alors ces réformes effectivement ont été votées par le référendum de l'an dernier, doivent être mises en œuvre après les prochaines élections, donc c'est évidemment Erdogan a ça en tête, même si depuis 2014, depuis qu'il est président de la République, République, c'est déjà de cette manière qu'il gouverne, très concrètement. Il n'a pas attendu les réformes constitutionnelles pour devenir l'hyper-président qu'il est aujourd'hui. Il occupe tout l'espace. Alors concrètement, ces réformes vont aboutir encore plus à un régime présidentiel, vous l'avez dit, mais avec une présidence qui aura un pouvoir de nomination élargi, notamment des magistrats. Donc la justice sera encore moins indépendante après ces réformes. Il y aura la suppression pure et simple du poste de Premier ministre. Le Parlement deviendra une chambre de validation, finalement, des propositions de loi présidentielles. Donc voilà, ça sera un régime hyper présidentiel avec des pouvoirs totalement concentrés entre
Mais à vous entendre, on a l'impression que finalement, ça ne va pas changer grand-chose.
Non, donc je pense que dans la gestion du pouvoir, effectivement, ça sera c'est déjà de cette manière-là qu'Erdogan gouverne, encore une fois, depuis 3-4 ans.
Dans les années 90, Recep Tayyip Erdogan parlait de la démocratie comme d'un bus. On se souvient de cette phrase, on descend quand on arrive au terminus. Alors est-ce que ce nouveau système exécutif, c'est pas le terminus justement, est-ce que c'est pas l'apogée de son projet politique ?
Écoutez, oui, on peut être tenté de le penser et en même temps, pour avoir longuement étudié le parcours politique d'Erdogan, il est fait de volte-face, de surprises aussi. Et je pense qu'on n'est pas non plus au bout de nos surprises avec Recep Tayyip Erdogan et qu'on peut encore avoir des changements de direction subis. Et il est à la fois prévisible et en même temps imprévisible. Je pense qu'après ces élections-là, une fois son pouvoir consolidé, une nouvelle donne va s'installer et tout sera possible à ce moment-là. Il sera à nouveau à la recherche de nouveaux équilibres politiques.
Comment vous qualifieriez son régime ?
Il est indéniablement aujourd'hui sorti de la voie démocratique. Aujourd'hui, il y a plus même les apparences de la démocratie, même les élections qui jusque pendant très longtemps, effectivement, les élections étaient libres et équitables en Turquie et pouvaient donner une apparence de régime démocratique. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On sait que le référendum l'année dernière a été entaché de fraude. Ça a été dénoncé par l'OSCE. On peut évidemment craindre au moins autant de fraudes cette fois-ci pour les élections qui vont se tenir sous un régime d'état d'urgence, avec une absence de pluralisme des médias, avec un haut conseil électoral qui a été réformé par décret cette année et qui a été totalement vidé de tout pouvoir de contrôle. Donc il n'y a plus d'obstacle, si vous voulez, à la manipulation totale des résultats des élections. Et on peut penser qu'Erdogan sera tenté d'utiliser ce pouvoir.
Les obstacles, normalement aussi, dans une démocratie, c'est l'opposition. Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Le CHP, par exemple, qui est le principal parti d'opposition en Turquie, a organisé en juin dernier une grande marche d'Ankara à Istanbul, une grande marche, pour dénoncer les abus des autorités turques, notamment après l'arrestation d'un de ses députés, Kemal Kılıçdaroğlu, et son leader. Écoutez-le.
On veut envoyer un message à la population. C'est pas une marche partisane et la justice est totalement sous contrôle politique. Avec cette marche, on veut dire n'ayez pas peur. Dans ce pays, il y a au moins 50% de la population qui a voté non au référendum et qui est prête à défendre la démocratie. Cette opposition que vous voyez et que nous voulons maintenant construire, ce n'est pas celle d'un parti politique. Cette marche doit être l'occasion d'une véritable opposition populaire.
C'est le député Muharrem İnce qui est le candidat du CHP à la présidentielle. 4 partis d'opposition, dont le CHP, ont réussi à s'entendre pour une liste commune aux législatives, pas pour la présidentielle. Guillaume Perrier, on le disait, ces élections ont été anticipées. Est-ce que cela joue contre les opposants de Recep Tayyip Erdogan ? Ça laisse peu de temps pour s'organiser.
Bien sûr, bien sûr. Et la machine de campagne électorale de l'AKP, du parti au pouvoir, est d'une telle puissance qu'on ne voit pas comment l'opposition pourrait inverser la tendance. Ils ont effectivement été pris par surprise. Alors ça a aussi permis d'accélérer un rapprochement qui était déjà sous-jacent entre le CHP et Meral Akşener, donc cette nouvelle candidate issue de l'extrême droite. Maintenant, le score que ces deux partis plus leurs petits alliés, mais qui sont assez microscopiques, le score que pourrait faire cette alliance ne semble pas non plus de nature à faire de l'ombre à Erdogan pour le moment.
Là, on parle des législatives. Pour ce qui est de la présidentielle aussi, parmi les personnalités qu'on a évoquées, donc Muharrem İnce, Meral Akşener, donc cette candidate ultranationaliste, là aussi personne pour faire peur à Recep Tayyip Erdogan.
On peut pas, voilà, enfin, c'est difficile d'avoir un avis définitif. Pour faire peur, je pense que Meral Akşener, Erdogan craint beaucoup cette candidate parce qu'elle est issue vraiment du sérail kémaliste, hein, de l'État kémaliste, de l'establishment politique turc. C'est une ancienne ministre de l'Intérieur qui a été en pointe dans la lutte contre le PKK, contre les Kurdes dans les années 90. Elle a donc un pouvoir important et une aura, une certaine aura dans l'électorat nationaliste que cherche lui-même à unifier Recep Tayyip Erdogan. Donc elle peut partiellement lui prendre quelques voix, mais elle n'a pas l'expérience ni la force pour pouvoir lui prendre le pouvoir.
Alors selon les sondages, en tout cas Recep Tayyip Erdogan ne l'emporterait pas dès le premier tour. Est-ce que le président Erdogan finalement est fragilisé? Il accélère un calendrier électoral. Vous le dites, hein, et on en parlera évidemment. Il bâillonne aussi les médias. Est-ce que finalement sa position, sa popularité est fragilisée?
Oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'il a anticipé les élections, bien sûr. Si je pense que s'il était sûr de sa victoire, il n'aurait pas eu besoin d'anticiper les élections. Sa popularité est fragilisée, comme on le disait tout à l'heure, par une économie qui elle-même vacille et par des opérations en Syrie qui ne sont pas non plus discutées au niveau politique. Donc, il y a une situation qui est aujourd'hui qui nécessite l'anticipation des élections, oui.
Et son parti, l'AKP, en juin 2015, il avait perdu sa majorité absolue aux législatives, faute d'accord politique pour la formation d'un gouvernement. Des élections avaient été convoquées 6 mois plus tard. Est-ce que le parti est plus à même aujourd'hui d'obtenir une majorité solide?
Là aussi, c'est une autre configuration. Aujourd'hui, l'AKP va faire liste commune donc avec l'extrême droite, avec le MHP. Ces deux partis-là seront pas loin des 50% au premier tour des législatives. Donc, ça leur a garanti une majorité absolue des sièges, quasiment, hein, sauf coup de Trafalgar. Mais là encore, on est en train d'échafauder des scénarios qui envisagent une élection parfaitement libre, impartiale et transparente. Je pense qu'on sera dans une autre configuration le 24 juin.
Décryptage, Marie Cazadebé.
La suite de notre décryptage sur la présidentielle et les législatives anticipées en Turquie, donc qui auront lieu le 24 juin. Dans un discours mardi, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que si un jour la nation lui disait « ça suffit », il partirait. Les internautes turcs l'ont pris au mot. Le hashtag « tamam » qui peut signifier aussi bien « d'accord » que « stop » a été partagé plus d'un million de fois sur Twitter. Guillaume Perrier, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que cette mobilisation est nouvelle en Turquie?
Alors oui et non, ça rappelle évidemment la mobilisation de Gezi, hein, en 2013. On va d'ailleurs fêter entre guillemets les 5 ans de cette mobilisation. Souvenez-vous, il y avait eu des centaines de milliers de manifestants autour de la place Taksim à l'époque, qui étaient déjà descendus dans les rues pour dénoncer l'autoritarisme, la corruption du régime. Je dirais que c'est l'utilisation des réseaux sociaux, cette créativité d'une forme de résistance de la société civile, ça n'est pas nouveau. C'est même, je pense, ce qui donne encore de l'espoir aux démocrates turcs, c'est de voir qu'il y a cette société civile, cette jeunesse assez vibrante et qui résiste, hein, malgré tout. Maintenant, on voit aussi, ça montre aussi que les espaces de résistance sont extrêmement limités, que certes, il y a 1 million de tweets, mais que face à cela, il y a 55 millions de personnes qui vont voter dans les urnes et qui ne tweetent pas en Turquie. Je pense que voilà, ça montre aussi le rétrécissement des espaces de résistance.
Une mobilisation, en tout cas, qu'il faut souligner, puisqu'on en Turquie, il n'est jamais sans risque de s'exprimer sur la toile. Même sur la toile, c'est ce qu'indique Erol Anderoglu. Il est représentant de Reporters sans frontières en Turquie. Lors de cette interview sur RFI, il y a quelques semaines, il réagissait à la difficulté dans son pays de critiquer l'intervention de l'armée turque à Afrin, en Syrie.
La sphère du net est étroitement surveillée par les forces de sécurité et il suffit de partager un hashtag autour de la paix, non à la guerre, et de partager ses idées pour se faire interpeller un beau matin. Donc, il ne s'agit pas d'un climat d'intimidation qui vise précisément des journalistes de la sphère critique, mais d'une surveillance étroite qui vise les cercles d'opposition, plusieurs secteurs, la société civile, le mouvement des droits de l'homme également.
Pour RSF, la Turquie est la plus grande prison du monde pour les professionnels des médias. L'état d'urgence a permis la fermeture de dizaines de journaux, télé, radio, sites internet. Guillaume Perrier, évidemment, j'imagine que ça se ressent sur la couverture de cette campagne électorale.
Bien sûr, il suffit de regarder les kiosques à journaux ou les chaînes de télévision. C'est Recep Tayyip Erdogan en boucle toute la journée. Les quotidiens turcs titrent tous la même chose, la même citation du président, souvent la même photo, les mêmes couleurs. Enfin, il y a évidemment aujourd'hui les médias sont à l'unisson, à part quelques microscopiques espaces de résistance comme le quotidien de Cumhuriyet qui est devenu assez fameux pour ça maintenant. Mais 95% de la parole média aujourd'hui est monopolisé par Erdogan.
Et comment est-il représenté? Alors vous disiez souvent ce sont les mêmes phrases, les mêmes actions, les mêmes images qui reviennent. Qu'est-ce qu'on voit de Recep Tayyip Erdogan dans la presse aujourd'hui?
Ce qu'on voit, je crois que c'est son discours, hein. On est dans une forme de propagande, hein, disons les mots. On flatte le nationalisme turc, évidemment, la grandeur de leur chef d'État qui résiste aux injonctions de l'Occident, aux pressions internationales, qui s'oppose à l'injustice. On est dans une forme de récit héroïque qui est le personnage que s'est construit Recep Tayyip Erdogan maintenant depuis 15 ans.
Vous le disiez, la Turquie toujours sous état d'urgence depuis juillet 2016, depuis cette tentative avortée de putsch. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a demandé aujourd'hui à Ankara de lever cette mesure pour garantir la crédibilité des élections du 24 juin. Là aussi, c'est un outil pour Recep Tayyip Erdogan, cet état d'urgence en campagne.
Bien sûr, ça justifie toutes les restrictions de liberté qui servent à d'autres objectifs, évidemment, que la lutte contre le terrorisme ou l'après-coup d'État. On est passé à autre chose aujourd'hui, et évidemment, tenir des élections dans ce contexte, avec cet état d'urgence, remet profondément en question la légalité, l'équité de ces élections. Mais ça n'est pas le seul problème. Je dirais que même sans l'état d'urgence, l'équité de ces élections pourrait largement être questionnée.
Recep Tayyip Erdogan, qui reste donc très populaire malgré tout en Turquie, notamment grâce à sa casquette de chef des armées et de la récente victoire militaire de la Turquie à Afrin en Syrie. Vous l'avez cité, les combattants kurdes y ont été délogés. Le président turc ne compte pas en rester là.
Si vous nous demandez maintenant, la mission est-elle terminée? Non, bien sûr. Nous avons posé une virgule, nous devons maintenant mettre le point final. Nous allons poursuivre ce processus jusqu'à la destruction finale de ce corridor de la terreur. Jusqu'au nord de l'Irak, nous allons prendre le contrôle des camps terroristes si nécessaire. Si le gouvernement irakien peut s'en occuper, tant mieux. Sinon, nous irons jusqu'à la ville de Sinjar pour éliminer le PKK.
Cette déclaration remonte à mars dernier, mais dans son discours de campagne, il y a quelques jours, il a promis de nouvelles opérations militaires en Syrie. Sur la scène internationale, il veut faire de la Turquie une puissance globale, une force maîtresse, je le cite, capable d'agir militairement pour assurer sa sécurité. Ça veut dire que cet argument fait écho, Guillaume Perrier, chez les Turcs?
Oui, je crois que c'est indéniable, et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il le fait, c'est même la seule raison. C'est un levier électoral, d'abord pour lui, ces opérations. C'est pas pour rien qu'il a lancé cette opération à Afrin quelques mois avant les élections. On savait pas qu'il allait les anticiper, mais lui, il savait sans doute déjà. C'est d'abord un levier électoral qui lui permet, encore une fois, de renforcer ce consensus nationaliste qui est aujourd'hui la ligne politique sur laquelle il a construit son équilibre. Donc, ça renforce complètement ses positions. Rien n'indique qu'il va poursuivre ses opérations militaires après les élections. Pour l'instant, il laisse planer le doute. Ça permet, pendant ce temps-là, de négocier aussi sur le terrain avec les États-Unis ou avec la France sur les aspects concrets de ces opérations. Mais pour l'instant, il pousse ses pions le plus loin possible tant qu'on les lui laisse pousser. Après Afrin, il est fort probable que la Turquie continuera à se déployer dans d'autres villes. Mais ça sera des opérations coup par coup.
En quelques mots, ça fait écho aussi chez les Turcs, parce que ça touche à leur sécurité.
Oui, bien sûr. Comme tous les pays, la Turquie est totalement est très préoccupée par sa sécurité. Mais je dirais même que pour les Turcs, c'est presque une obsession. Il y a une obsession pour la sécurité, pour l'unité du territoire, qui vient aussi évidemment de l'histoire, du dépècement de l'Empire ottoman. Et donc c'est pour ça que les Kurdes aujourd'hui sont si importants.
Merci Guillaume Perrier. J'invite nos auditeurs à lire votre ouvrage Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan aux éditions Actes Sud.